Vous savez, il n'y a pas que les Noirs qui sont victimes de racisme systémique. Ici, les premiers habitants de ce territoire qui est très vaste et en sont encore victimes et quotidiennement et de façon beaucoup plus drastique, il faut l'avouer. Hein, et nous luttons, mais il ne faut pas oublier les autochtones de ce pays qui, en plus, je dois vous l'annoncer, bien que je l'ai déjà fait, et nous ont invités sur ce territoire. Hein. Nous avons eu une invitation officielle de nos amis autochtones pour être sur ce territoire. Il y avait cet après-midi, vers midi, j'ai commencé à regarder, mais il y avait ce webinaire et conférence de presse intitulé « Agir contre le racisme systémique au Cégep, perspective autochtone ». Et c'est organisé par le réseau intercollégial de décolonisation RID qui donne vie à sa déclaration de décembre 2020 dans un format électronique pour la communauté collégiale et les médias. Alors, ils ont lancé une pétition, ils ont recueilli plusieurs centaines de signatures, ils ont exhorté le ministère de l'Enseignement supérieur et d'autres décideurs du secteur public à adopter des mesures concrètes de lutte contre le racisme systémique. Et comme d'habitude, on lance des ballons et nos dirigeants ne les attrapent pas. Par exemple, un étudiant a dit « Lorsque nous étions, nous étudiants autochtones, poursuivons des études postsecondaires, nous devons quitter notre communauté, nous devons nous éloigner de la terre ne nous donne pas que les ressources nécessaires à notre survie, mais aussi nos connaissances, nos valeurs et nos langues. » Pour en parler, Tanou Lusignan, directeur général à Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes. Monsieur Lusignan, bonjour.
Oui, bon après-midi, merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Racontez-nous un peu la naissance de cette pétition. Pourquoi avoir voulu faire une pétition?
Oui, ben on a fait une pétition pour rassembler le soutien ou aussi la sensibilisation pour qui qu'on a sensibilisé auprès de la pétition pour nous soutenir dans nos démarches à faire reconnaître un peu les enjeux du racisme systémique dans le secteur postsecondaire, surtout relié au travail et développement dans les cégeps de la région de Montréal.
D'accord. Et quelles sont les difficultés que rencontrent les étudiants autochtones qui arrivent au cégep?
Au niveau de scolarité, veut dire au niveau de changement vers une ville urbaine via nos communautés qui sont éloignées ou isolées, ça fait vraiment une adaptation culturelle en allant vers un cégep dans un milieu urbain. Ça peut être très, très épeurant pour beaucoup entre nous. Et un des aspects pour balancer ce déménagement, c'est de introduire des espaces sécuritaires et adaptés aux cultures autochtones dans chaque institution postsecondaire, comme exemple.
Pourquoi est-il si difficile d'obtenir au moins un consensus sur vos besoins lorsque ces étudiants-là arrivent au cégep?
Définitivement, c'est beaucoup des efforts qui se font au niveau postsecondaire auprès de la population autochtone est toujours basé sur une notion de projet. C'est toujours relié avec des budgets ou des demandes d'application qu'on fait année après année pour recueillir ces budgets-là. Alors, les cégeps compétitionnent entre eux pour avoir accès à ces fonds-là. Ça devient un peu... qu'est-ce que nous voulons souhaiter, c'est que ça devient partie de la mission et la vision des institutions postsecondaires d'appuyer la culture et la sécurité de leurs étudiants autochtones.
Et quand... comment pourrais-je poser la question? Quels sont les problèmes, une fois que l'étudiant est au cégep, mm-hmm. et qu'il doit s'intégrer, parce que c'est ce qu'on lui demande, et qu'il ne trouve pas, parce que c'est une problématique qu'on connaît bien, et qu'il ne retrouve pas les traces de sa culture, qu'est-ce qui arrive à cet étudiant?
Ben la majorité, il faut dire que malheureusement, dans la majorité des cas, c'est qu'ils vont décrocher vers une autre avenue. Ils vont quitter le postsecondaire pour trouver d'autres options. Certainement, c'est pas ça qu'on veut faire. Nous, on reconnaît comme un exemple qui nous revient, c'est la langue. Mm-hmm. Et puis la langue, c'est la barrière, c'est la langue française. Beaucoup de nos communautés, on regarde dans le secteur plus anglophone que nos jeunes autochtones apprennent leur langue autochtone et exemple, ils vont apprendre l'anglais. Quand ils arrivent dans le système collégial, c'est comme il faut réapprendre le français comme langue seconde, mais nous, on veut proposer qu'on continue à développer les langues autochtones au niveau du cégep, alors mm-hmm. qu'ils peuvent continuer à développer leurs compétences via leur communauté ou leur nation.
D'accord. Et dites-moi, pourquoi il n'y a pas un cégep dédié aux Autochtones?
Il y a un cégep dédié en matière de formation visée pour la population autochtone mm-hmm. Qui on a, mais c'est pas tout le monde qui vont aller s'inscrire pour les programmes à qui on a. Je pense que ça touche certains programmes. Si on veut espérer d'aller toucher comme être futur médecin ou futur ingénieur ou futur dans d'autres domaines, mais il y en a certains d'autres cégeps qui offrent ces spécialités-là et on veut que on donne la chance à ces élèves-là de parcourir ces cégeps.
Mais finalement, c'est presque un parcours de combattant. C'est-à-dire qu'en fonction du choix d'études de l'étudiant, il doit premièrement trouver un cégep qui lui convient. Il faut qu'il déménage. Il faut qu'il aille ailleurs, dans une autre ville. Je veux bien croire que bon, ça se fait. Beaucoup de jeunes, certains jeunes le font. Mais si ça doit se faire de manière systématique, ça devient lourd au niveau de la gestion pour ces jeunes.
Oui, puis c'est pour ça que je pense qu'on a à voir et d'être inspiré de d'autres programmes développés à travers le Canada qui ramènent un peu le curriculum sur la terre, de travailler avec le postsecondaire pour ramener des cohortes pour des DEC ou des BAC, comme exemple, dans les régions éloignées et les communautés éloignées.
Il y a une chose que je saisis difficilement, et peut-être que vous pourriez m'aider à comprendre. Le Québec dans son ensemble se bat pour le français. Pourquoi est-il si difficile pour que les dirigeants comprennent vos besoins en matière de langue, selon vous?
Très bonne question. Ça, le pourquoi, c'est un peu où on est maintenant. Mm-hmm. On voit certainement la position auprès des années du gouvernement du Québec de prendre position pour préserver puis promouvoir la langue française. On connaît bien ces enjeux-là, mais aussi d'être capable et reconnaissant à l'intérieur du territoire du Québec, on a des nations. On a des nations Atikamekw, Innu, Mi'kmaq, Mohawk, qui ont aussi leur histoire, leur culture et leurs valeurs. et que ça se rassemble un peu. Alors, ça serait un peu dans le meilleur des mondes de reconnaître ces langues-là au milieu de la province.
Et dites-moi, le webinaire d'aujourd'hui a donné quoi comme résultat?
Le webinaire est certainement pour sensibiliser la population, sensibiliser aussi nos collègues dans le système postsecondaire, et aussi pour ramener des témoignages aussi concrets des étudiants qui font leurs études au cégep, de leurs expériences, des situations qui leur met en question que c'est un peu le système est raciste contre eux.
OK. Et finalement, à partir de là, il y a eu la pétition, il y a eu le webinaire. C'est quoi la suite?
La suite des choses, c'est une continuation des efforts dévoués par l'équipe à travers les cégeps. C'est sûr que nous, on veut déposer la pétition avec le mot qui était produit par l'équipe. Mm-hmm. au premier ministre et aussi au ministère d'éducation.
D'accord. Est-ce que vous avez bon espoir?
J'ai bon espoir. J'ai un sentiment qu'avec le changement que nous sommes en train de vivre comme société, qu'il y a une ouverture de réconciliation auprès de la province.
D'accord. Parce que la province s'est engagée à trouver des solutions au racisme systémique, et espérons qu'ils vont pouvoir trouver des voies de solutions pour vous.
Exact. Et on n'a pas besoin, comme une autre commission vient, pour venir affirmer ces responsabilités-là. Alors, il faut mettre l'action sur l'avant pour finalement travailler un petit peu plus étroitement ensemble.
D'accord. Alors, Monsieur Tanou Lusignan, je vous dis un grand merci et merci d'avoir partagé avec nous vos réflexions. Et je rappelle que vous êtes directeur général à Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Ça fait plaisir.